Quand on a commencé notre mission, on a vite compris que l'on avait besoin de personnes postées à l'extérieur, au Kurdistan, mais aussi dans toutes les zones contrôlées par les djihadistes de Daesh. On a tissé un véritable réseau pour libérer les otages.
Hussein Al-Kaidi est le directeur du bureau de sauvetage des otages yézidis situé au Kurdistan irakien. Son rôle est aussi important que méconnu. Avec ses agents et ses passeurs, il arrache des griffes de Daesh les otages capturés lors de l'offensive djihadiste de 2014.
Les djihadistes sont juste là en face.
Cet été-là, l'organisation État islamique s'était emparée du district de Sinjar, dans le nord-ouest de l'Irak, près de la frontière syrienne. Le Sinjar est le foyer historique des yézidis, une minorité religieuse kurdophone persécutée de longue date. Entre 2000 et 5000 yézidis, des hommes essentiellement, avaient été tués par l'organisation État islamique. 6000 femmes et enfants avaient été capturés, les femmes transformées en esclaves sexuels, les enfants enrôlés de force parmi les combattants. Depuis 2014, 3000 yézidis ont été libérés grâce au bureau de sauvetage des otages.
And then I called for Nadia Murad to step forward and give her noble lecture.
La plus connue, Nadia Murad, vit désormais en Allemagne. Elle a remporté le prix Nobel de la paix à l'automne dernier. Les yézidis tentent de se reconstruire, une gageure au vu des atrocités subies.
Moi, j'ai 4 enfants. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu. Même si je commence une nouvelle vie, il y aura toujours ce malheur dans mon cœur.
Alice Serrano et Eric Audra ont rencontré, et c'est rare, tous les acteurs du bureau de sauvetage des otages yézidis. Ils ont recueilli la parole douloureuse des femmes meurtries. À la rencontre des sauveurs de yézidis, voici leur reportage.
France Inter, Interception, le magazine de la rédaction.
Nous sommes en route pour le bureau de sauvetage des otages yézidis situé en plein cœur de Dohuk. Un bureau créé il y a un peu plus de 4 ans par le premier ministre kurde, Nechirvan Barzani, pour venir en aide à ces femmes et ces enfants détenus par Daesh. Et aujourd'hui encore, une équipe de fonctionnaires kurdes travaille d'arrache-pied pour tenter de libérer les derniers otages. On estime aujourd'hui qu'ils sont un peu plus de 3000. Nous voici au pied de ce bâtiment de 2 étages où est niché ce bureau de sauvetage des otages yézidis. Et là, nous allons rencontrer le directeur de ce bureau, Hussein Al-Kaidi.
Hello. Hello. Good morning.
Good morning. Vous pouvez nous dire qui sont ces gens que vous saluez ?
Comme je vous l'ai dit, notre travail principal, c'est de s'occuper de notre peuple. Là, c'est une jeune fille qui a été libérée. Elle est avec sa famille. Les familles d'otages viennent ici, au bureau.
Comment ça se passe donc quand une jeune fille arrive ici ? J'ai vu qu'elle était dans le bureau, qu'il y avait un débrief. Qu'est-ce qu'on débriefe exactement ? Quelles informations vous voulez savoir ?
Nous avons un document top secret dans lequel nous enregistrons toutes les informations depuis le premier jour de l'enlèvement de l'otage jusqu'à sa libération. Voilà, c'est ce document. Il est fait de cette manière-là, avec la photo de l'otage et son empreinte. Bien sûr, ce sont des dossiers top secret. Tout ce qui concerne l'otage, depuis le premier jour jusqu'à sa libération, est noté ici.
Alors là, vous venez de sortir un classeur gris sur lequel il y avait des fiches avec des photos. Vous disiez l'empreinte à chaque fois des otages yézidis que vous avez libérés. Quand vous dites les informations précieuses, c'est des informations sur leur geôlier, sur leur nationalité. Est-ce que c'est ces informations-là qui vous intéressent, vous ?
Oui, tout. On note tout depuis l'enlèvement de l'otage jusqu'à son retour.
Et vous, ce qui vous intéresse en gros, c'est d'avoir des informations sur l'ennemi, sur l'État islamique. J'imagine que c'est ça ce qui vous intéresse.
Tout est important pour nous.
Assise sur un coin de canapé aux côtés de son oncle, une jeune femme attend son rendez-vous avec l'un des officiers du bureau. Vêtue d'une longue robe noire, cette jeune yézidi, la tête baissée, se tord les mains de nervosité.
Je m'appelle Souad Daoud, j'ai 21 ans.
Vous avez été libérée il y a combien de temps ?
Ça fait environ 2 semaines. J'ai tenté de fuir à plusieurs reprises, mais c'était difficile. J'avais peur et je n'avais pas d'argent. Une fois, on m'a arrêtée et on m'a attaché les pieds et les mains. J'étais esclave chez le ministre du pétrole de Daesh. J'ai essayé de fuir de Chadadé au nord de Deir ez-Zor, mais il m'a arrêté. Aujourd'hui, la situation de Daesh est difficile. Ils sont encerclés, les femmes et les enfants partent, ils ne peuvent pas les retenir. Il n'y a plus de médecins là-bas. Si quelqu'un est blessé ou que sa main est coupée, personne ne le soigne. S'il y a un bombardement et que vous êtes blessé, ils vous jettent dans la rue. Aujourd'hui, les femmes et les enfants essaient tous de fuir.
Est-ce que vous sentez que les attaques actuellement de la coalition internationale contre Deir ez-Zor affaiblissent l'État islamique ? Est-ce que vous l'avez vraiment vu ?
Oui, les frappes les affaiblissent. Toutes les familles partent, seuls les hommes restent. Il y a même des hommes qui sont partis. Avant mon départ, j'ai vu des djihadistes jeter leurs armes derrière notre tente et partir avec leurs familles. Il y en a beaucoup qui partent, mais il y en a encore qui restent.
Et un bureau comme ça, qu'est-ce qu'il vous demande juste quand vous arrivez ?
Je ne sais pas.
En fait, ils enregistrent leur nom ici et ensuite le bureau rembourse celui qui a payé les passeurs. Ils refont nos papiers, nos passeports. Ils nous permettent même de consulter des médecins. Ils nous donnent un document qui prouve à 100% que tu as été otage de Daesh et alors tu peux aller te faire soigner.
Quand vous avez reçu le coup de téléphone de votre nièce, quelle a été votre première réaction ?
Oh, nous étions tellement contents, tellement, tellement. Je ne pensais pas la retrouver après 5 ans de guerre. C'est un cadeau de Dieu. 5 ans de guerre, de bombardement. Sa sœur cadette, elle aussi, a disparu. Dans notre famille, 5 filles sont encore esclaves.
Pour vous, quel rôle le bureau de sauvetage des otages yézidis a joué dans sa libération ?
Le bureau nous a aidés dans tous les domaines. Ils ont libéré 21 personnes de ma famille et ils ont payé tous les passeurs, quel que soit le prix, 5 000, 6 000, 10 000 ou même 20 000 dollars. Tous les membres de ma famille qui ont pu fuir m'ont à chaque fois appelé. Et moi ensuite, j'ai appelé le bureau. Le bureau nous donne de la nourriture et des vêtements pour chaque esclave libéré.
Le visage doux, le regard triste, la jeune femme qui a grandi trop tôt est restée un peu plus de 4 années aux mains des djihadistes de Daesh, ballottée entre l'Irak et la Syrie, Souad en a oublié sa langue, le kurde. Aujourd'hui, elle tente de retrouver son identité en refaisant ses papiers ici au bureau. Elle, qui a perdu son père et son frère, espère rejoindre sa mère et 3 de ses sœurs en Allemagne. Alors là, un couple de yézidis vient d'arriver. La femme est habillée d'une longue robe noire. Les visages sont graves. Yessar, l'un des officiers, les reçoit dans son bureau.
Le monsieur et sa femme, ils ont des enfants prisonniers, esclaves en Syrie. Il vient pour donner des informations pour les libérer.
Alors Miessar vient de nous prier de partir. Certaines informations doivent rester confidentielles, dit-il, pour la sécurité des otages. Nous retrouvons Hussein El-Kaïdi, souriant, en costume cravate, dans un bureau impeccablement rangé où trône le drapeau kurde irakien. Cet imposant soleil qui écrase 3 bandes, rouges, blanches et vertes. Au mur, une grande photo de femmes et d'enfants, aux traits creusés que l'on devine fuir le Sinjar.
On comptabilise 6417 personnes enlevées. Jusqu'à maintenant, nous en avons sauvé 3352 précisément.
Qui sont essentiellement les yézidis que vous avez libérés ?
337 hommes, 1262 femmes. Le reste, ce sont des enfants, des garçons, des filles, plus de 1800 enfants au total.
Vous avez tissé un vrai réseau de passeurs pour pouvoir permettre la libération de ces otages. Expliquez-nous comment il fonctionne, ce réseau.
Alors, quand on a commencé notre mission, on a vite compris que l'on avait besoin de personnes postées à l'extérieur, au Kurdistan, mais aussi dans toutes les zones contrôlées par les djihadistes de Daesh. On a tissé un véritable réseau pour libérer les otages. Les passeurs sont tous des civils, la plupart sont des yézidis, mais pas seulement.
Est-ce que c'est des personnes que vous rémunérez, qui sont des professionnels, qui travaillent pour vous ?
On a deux équipes, l'une administrative composée de fonctionnaires qui travaillent dans le bureau et une équipe opérationnelle à l'extérieur. Ils sont rémunérés en fonction des missions.
Ils sont combien à l'extérieur et combien à l'intérieur ?
Dans le bureau, on a 8 agents et à l'extérieur, plus de 20.
Comment ça se passe ? Donc c'est une yézidi qui se signale à vous et après, comment vous déclenchez tout le processus de libération ?
Notre équipe sur le terrain collecte le maximum d'informations sur les otages, l'adresse où ils se trouvent, leur numéro de téléphone. Comme ça, on peut entrer en contact avec l'otage. Et à partir de ce contact, on commence à travailler sur le terrain, jusqu'à la libération. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Comme il y a toujours des otages, je ne veux pas parler des détails pratiques de notre travail. Nous ne voulons pas que les informations arrivent à l'ennemi. Leur vie en dépend. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai tout.
Mais où sont, selon vous, les otages, les 3000 otages yézidis aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont encore en Syrie ? Est-ce qu'il peut y avoir certains otages dans d'autres pays ?
Ils sont répartis dans trois endroits principaux. Tout d'abord en Syrie, puis en Turquie et en Irak.
Comment ça se fait qu'elles soient en Turquie, étant donné que l'État islamique n'est pas en Turquie ?
Les djihadistes de Daesh qui ont fui Mossoul, Tal Afar et la Syrie sont allés en Turquie. Et selon nos informations, ils ont pris des otages avec eux.
Impunément ?
Oui, tout simplement.
Allô ?
Oui, dis-moi. Ils sont combien ? Ils sont arrivés où ? Tu veux dire qu'ils sont arrivés dans la zone de sécurité ? Trois personnes ? Ok. Merci. Appelle Miessar tout de suite.
Hussein El-Kaidi vient de recevoir un appel d'un passeur lui annonçant la libération de trois otages. Une mère et ses deux filles âgées de 6 et 8 ans. La famille se trouve à la frontière irako-syrienne et devrait, selon le directeur du bureau, arriver sur le sol kurde d'ici quelques jours.
Merci beaucoup.
Interception
beaucoup,
sur France Inter.
Nous voici à Sheran, au sud-est de Dohuk, l'autre berceau du peuple yézidi avec le Sinjar. Nous allons assister dans quelques instants au dernier jour des obsèques du prince Tahsin Saïd Ali, le personnage le plus important dans la hiérarchie yézidi.
Ce bâtiment, c'est une salle ici dans la ville pour les cérémonies yézidis.
Nous entrons aux côtés de Saïd dans un grand bâtiment réservé aux hommes. Saïd, notre traducteur, notre guide, va nous accompagner ces prochains jours.
Et comme on voit, il y a des convois qui viennent de partout du monde. Là, il y avait un convoi américain et il y a des gens de partout, des Kurdes qui viennent de toutes les villes de Kurdistan. Ça fait une semaine. Chaque matin, il commence à 9h le matin jusqu'à 18h.
Vous êtes les bienvenus, je suis Baba Jawish. Ici, nous sommes dans la salle des obsèques du prince Tahsin.
Et Baba Jawish, c'est le garde du temple Lalash, le temple le plus grand du peuple yézidi dans le monde.
C'est vrai qu'une grande partie des yézidis ont déserté le Sinjar, qui est le berceau de cette communauté. Comment vous allez faire pour qu'ils reviennent dans ce berceau, pour que cette communauté revive ?
Les Yézidis ne voulaient pas quitter leur terre, mais ils ont été contraints de le faire parce qu'ils avaient peur. Bien sûr que nous ne voulons pas quitter notre patrie. Nous sommes nés ici, nous avons construit ce pays, nous sommes le plus ancien peuple de la région. Mais on a peur, alors qu'est-ce que l'on fait? On nous a tués, pillés, détruits, ils ont pris nos femmes et nos filles. Il reste encore 3000 femmes entre leurs mains.
Alors justement, vous parlez de ces femmes yézidis qui ont la plupart du temps été esclaves sexuelles de Daesh. Vous, vous avez tendu la main à ces femmes qui avaient été violées par des non-yézidis pour les intégrer à la communauté, alors que dans la tradition yézidi, c'est des femmes qui ont des relations sexuelles avec d'autres membres, d'autres communautés, sont rejetées, sont mises au ban. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir fait ce geste?
C'est notre devoir d'aider notre peuple. Notre peuple souffre parce que son seul crime, c'est d'être yézidi.
Vous pensez que votre action a permis aussi de ressouder la communauté, de réintégrer ces femmes à la communauté yézidi?
Oui, c'est grâce à notre décision que les gens accueillent bien ces femmes. Nous, hommes de religion, nous sommes les premiers à leur avoir ouvert les bras. Nous les respectons même plus que toutes les autres. Ici, nous les considérons comme des saintes.
Nous allons tenter d'interroger une femme yézidi qui est venue rendre hommage au prince ici dans la résidence du prince.
Alors on va entrer au palais du prince où les femmes. Non.
Les femmes se frappaient la poitrine, pourquoi?
C'est pour exprimer leur tristesse, parce qu'elles ont perdu leur prince.
Et vous, madame, qu'est-ce que représente pour vous ce prince qui est mort en janvier dernier, dont les obsèques se déroulent actuellement, aujourd'hui?
Il est parti. Il était notre père à tous. Nous sommes vraiment tristes. Il est notre prince. Il est le prince de tous les Yézidis. C'est vrai que le génocide de Sinjar était terrible. Nous avons perdu nos hommes, nos femmes, nos filles. Sinjar a été détruite. Mais la perte du prince est très, très difficile à vivre pour nous.
Et vous, vous avez réussi à fuir Daesh avec vos enfants?
Oui, nous avons fui. Les combats ont duré toute la nuit. Il y avait des tirs. Mon mari m'a dit, allez, sauve-toi avec les enfants, je vous rejoindrai. Nous sommes partis un matin, mais il ne nous a pas suivis. Cela fait 4 ans que je n'ai aucune nouvelle de lui. Son portable a fonctionné seulement 3 jours, et ensuite il s'est éteint.
Vous avez peur de vivre ici?
Oui, nous avons peur. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu qu'ils avaient détruit ma maison. Ma fille qui est là avec moi n'arrive plus à s'exprimer. Quand il pleut la nuit sur notre tente, elle est paniquée et ne peut pas dormir. Elle pense que les djihadistes nous attaquent et que l'on doit fuir. Je vous jure que mon corps tremble. J'espère un jour quitter l'Irak et avoir un salaire quelque part. Sans travail, sans salaire, comment je vais m'occuper de mes enfants?
Vous nous dites que vous voulez quitter l'Irak, mais pour aller où?
J'ai fait une demande pour l'Australie il y a 2 ans, mais je n'ai pour le moment pas eu de réponse. Je n'ai pas de mari. Je n'ai personne pour m'aider ou me pistonner. Cela fait 4 ans que l'on vit ici au Kurdistan, sous la tente et sans argent. En ce moment, je nettoie les casseroles pour gagner de l'argent et aider mes enfants. J'ai un enfant ici avec moi et 2 à la maison. Je travaille ici pour gagner un peu d'argent et faire quelques courses.
Amir, خوراگری وقتی آئی دے خوراگری چرائے اکبونے دے حلگری میر
اخوان نحن نريد بعيدا عن كل الخلافات السياسية
Août 2014, devant les députés irakiens, Viane Daril, unique représentante yézidi au Parlement.
Mes frères, oublions les querelles politiques, nous voulons une solidarité humanitaire. Je parle ici au nom de l'humanité, sauvez-nous, sauvez-nous. Nous sommes massacrés, exterminés. Notre religion est en train d'être rayée de la surface du globe. Je vous en supplie, au nom de l'humanité, sauvez-nous.
Le bureau de sauvetage des otages a libéré plus de 3000 yézidis depuis 2014, soit la moitié des femmes et des enfants capturés par Daesh. Ces libérations ont été rendues possibles grâce au travail de fourmis des passeurs. Implantés dans les zones sous le contrôle des djihadistes, ils prennent des risques pour accéder aux otages. Alice Serrano et Eric Audra ont pu recueillir le témoignage de l'un d'entre eux.
Je m'appelle Idriss Bachar Selo. Je viens du village de Kocho, dans la région de Sinjar, province de Mossoul.
Comment êtes-vous devenu passeur ?
Quand j'ai décidé de faire ce travail de passeur, je suis allé m'acheter un portable. J'ai commencé à contacter des gens dans la zone détenue par Daesh et je leur ai expliqué la situation. J'ai expliqué ce que je voulais faire comme travail. Ils étaient d'accord avec moi. Depuis le 15 octobre 2014, jusqu'au dernier appel que j'ai reçu il y a encore 2 heures, je poursuis ce travail.
Le réseau, si je comprends bien, au début, c'est des gens que vous avez rencontrés quand vous avez fui Sinjar. Et après, comment il s'est tissé ce réseau? Ces gens que vous avez rencontrés, eux-mêmes connaissaient d'autres personnes, c'est ça? Vous pouvez juste nous expliquer concrètement?
La première personne du réseau était de Deir-ez-Zor et il m'a mis en contact avec des gens de Raqqa qui m'ont eux-mêmes mis en contact avec des gens de Tabqa. Ils ont commencé à me donner d'autres numéros et j'ai tissé un véritable réseau. Environ 17 d'entre eux ont été tués depuis.
Et ce réseau, c'est quoi? Est-ce que c'est des passeurs professionnels ou est-ce que c'était juste des habitants?
Il y a des professionnels et des civils aussi. J'ai même eu un gamin de 13 ans. C'était le plus fort. J'ai toujours son numéro. Il s'appelle Ibrahim. Personne ne peut déplacer des montagnes comme lui.
Donc c'est des hommes, des femmes qui habitaient en fait dans les zones qui étaient occupées par Daesh, c'est ça?
Oui, bien sûr. S'ils ne sont pas dans les zones où se trouvent les djihadistes, ça ne sert à rien.
Est-ce que justement, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer le cheminement de la libération d'un otage yézidi?
J'ai donné mon numéro de portable à ma femme, qui était prisonnière à Tal Afar. J'ai réussi à prendre contact avec elle avant de pouvoir la libérer. Je lui ai dit de distribuer ce numéro à toutes les femmes captives. Ce numéro est arrivé auprès de 400 ou 500 femmes prisonnières. Des femmes yézidis m'appelaient et me disaient où elles se trouvaient. Et moi, je leur donnais des instructions et j'essayais de trouver tout de suite le sauveur de cette zone. Par exemple, à côté de la mosquée de Aïcha ou de Al-Nour, je demandais à la femme, qu'est-ce qu'il y a près de toi? Et je demandais aux passeurs de s'y rendre.
C'est-à-dire que vous négociez directement aussi avec les djihadistes. Vous réussissiez à avoir leur numéro et vous négociez directement la libération des esclaves avec les djihadistes contre de l'argent, j'imagine.
Quand les djihadistes ont coupé leur réseau internet en 2017, j'étais obligé de les appeler parfois directement. Mais avant, je ne le faisais pas.
Comment se passait la libération elle-même, l'extraction en fait des esclaves du lieu où elles étaient retenues prisonnières jusqu'à la frontière avec le Kurdistan?
Au début, je reçois un coup de téléphone. Je demande « Qui es-tu ?» On me répond « Je suis un tel ». Je demande à la femme, tu es à quel endroit? Et qu'est-ce qu'il y a à côté de ta maison, un magasin, un bâtiment? Et après avoir récupéré son adresse, je lui demande de sortir et de tenir, par exemple, un sac blanc à sa main droite. Si elle a un enfant avec elle, je lui dis, tiens ton enfant de la main gauche et il doit porter un t-shirt bleu ou rouge, par exemple. J'appelle le sauveur, c'est comme ça qu'on appelle le passeur. Je lui dis, tu vas t'arrêter là-bas. Tu vas voir une femme qui tient de la main gauche un enfant avec un t-shirt bleu et qui tient un sac blanc de la main droite. Tu t'arrêtes, tu gardes la voiture devant elle et tu dis, Idriss, elle monte avec toi. C'est comme ça qu'on les ramène et le passeur joue son rôle.
Comment saviez-vous que vos passeurs étaient des personnes de confiance ?
La confiance en Syrie, tu peux l'acheter avec de l'argent.
Idriss a libéré 13 des enfants de cet homme. Ils vivent aujourd'hui entassés dans une maison spartiate des faubourgs de Dohuk.
Et la fille vient d'être libérée. Elle a oublié le kurde.
Qu'est-ce que vous lui avez demandé ?
J'ai demandé d'elle si elle parle le kurde ou arabe. Et j'ai dit un slogan de Daesh. L'État islamique restera. Et elle a rigolé là. Elle sait qu'elle est plus chez Daesh. Et moi j'assure à elle qu'elle ne restera pas.
La petite dernière, Annette, 6 ans, est arrivée la veille. Elle aussi a oublié sa langue maternelle, le kurde. Symptômes récurrents chez un grand nombre d'anciens otages, qu'ils soient enfants ou adultes. 5 de ses frères et sœurs sont encore retenus prisonniers.
Je voulais juste savoir, monsieur, on sent que vous avez une grande reconnaissance envers Idriss. Quel rôle il a joué pour votre famille ?
C'est Idriss qui a sauvé ma famille. Idriss a sauvé ma première femme et mes enfants et ensuite ma deuxième femme. On n'oubliera jamais ce qu'il a fait. Il a fait sortir des cadavres des tombes pour leur redonner vie. Je n'aurais pas pu revoir mes enfants sans lui. Je lui suis vraiment reconnaissant. Et maintenant, il fait partie de la famille.
France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Devant nous, une vaste plaine verte entourée de montagnes. Nous sommes ici à l'extrême nord du pays, à la frontière avec la Turquie, à côté de Zaro, dans le camp de Radia. Et c'est là que nous allons rencontrer Noura, une yézidie de 30 ans, qui a été délivrée des griffes de Daesh par le bureau de sauvetage des otages yézidis. Alors Saïd, expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé là pendant la cérémonie.
Il y a une fête pour les yézidis aujourd'hui et il y a la fin d'un stage de sport. Ce sont des femmes qui s'entraînent sur la boxe et on distribue les certificats maintenant. Et ils ont commencé avec une minute de silence parce que le peuple yézidi est triste. Leur prince est parti.
Le prince Tahsin.
Oui, prince Tahsin Bag. Oui. Et voilà, maintenant, on distribue les certificats.
Et la jeune femme qui distribue les certificats est habillée en tenue traditionnelle ?
C'est tenue traditionnelle kurde yézidi. C'est surtout pour les fêtes.
Donc elle a un voile blanc sur la tête et une longue robe blanche avec un turban noir et doré.
Exact, c'est ça.
Je m'appelle Noura Khadel Khalal, je suis originaire de Kocho.
Vous avez quel âge ?
J'ai 30 ans.
Vous avez été emprisonnée par l'État islamique, vous avez été esclave de Daesh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand est-ce que vous avez été libérée et où ?
Ma famille m'a dit, on va te donner le numéro d'un passeur, parle avec lui. J'ai appelé le passeur, je lui ai donné mon adresse. J'ai décrit la maison de 2 étages. Et il m'a dit, qu'est-ce qui distingue ta maison des autres ? J'ai répondu, il y a une citerne rouge sur le toit. Et il m'a dit, mets un signe à l'extérieur. Alors j'ai attaché un bout de tissu blanc à 2 arbres. Il devait venir 3 jours plus tard pour me libérer. Mais il n'a pas pu. Alors il m'a appelé. J'ai pas vu qu'il m'avait appelé. Le djihadiste a vu l'appel en absence et il m'a dit, c'est qui ? Pourquoi tu parles avec lui ? J'ai répondu, c'est personne. Le djihadiste a appelé le numéro du passeur. Il m'a ensuite emmené au 2e étage et il m'a mis le pistolet sur la tempe. Il m'a dit, dis la vérité ou je te tue et je te jette d'ici. J'étais paniquée. J'ai tout dit. Il a mis le portable sur mon oreille et j'ai parlé avec le passeur. Je lui ai dit, viens à cet endroit pour me libérer. Le djihadiste voulait le tuer à son arrivée. Le passeur m'a dit, je viendrai à 9 heures le matin. J'ai dit, non, viens plutôt à 15 heures. Quand j'ai dit ça, le passeur a compris qu'il y avait un problème. Et il n'est pas venu. Le lendemain, le djihadiste est allé au front. J'étais avec mes enfants à la maison. Les djihadistes ont interdiction de prendre leur portable avec eux pour ne pas être repérés par les avions de la coalition. Je ne pouvais pas appeler. Mais le passeur a appelé. J'ai dit, si tu viens, il va te tuer. Il a dit, ok, je ne vais pas venir tout de suite.
Le passeur donne rendez-vous à Noura 2 jours plus tard.
C'était le ramadan. On s'est réveillé à 3 heures du matin pour manger. Le djihadiste a dit, je vais au front. Alors j'ai lavé mes enfants, leurs vêtements. Et à 9 heures, je suis partie avec mes 3 enfants. J'ai dit, allez, on part. Il y avait beaucoup de circulation. Je faisais semblant de me rendre chez les voisins. Une voiture blanche s'est garée devant moi. Il y avait 2 hommes dedans. Ils ont dit, allez, monte. Je suis montée avec mes 3 enfants dans la voiture. Dieu merci, on est monté dans la voiture à 9 heures le matin. À midi, nous étions arrivés au checkpoint des combattants kurdes syriens. Quand on est arrivé au checkpoint, le passeur m'a dit, enlève ton voile pour qu'on te reconnaisse. J'ai enlevé mon voile et les Kurdes ont commencé à nous tirer dessus. On s'est arrêté. Là, les combattants kurdes syriens nous ont entourés et ils ont dit, qui est-elle ? Le passeur a dit, c'est une femme yézidi que j'ai libérée de chez les djihadistes. Quand il a dit ça, je vous jure, il devait y avoir des milliers de combattants autour de moi. Ils ont commencé à me poser des questions. Comment as-tu été libéré ? J'ai dit, j'ai appelé ma famille. Arrivé au Kurdistan, j'ai parlé avec le passeur et avec le bureau de sauvetage des otages yézidis. Je pense que si le bureau n'avait pas payé, il n'y aurait pas eu un seul yézidi libéré.
Qui était ce passeur ? Est-ce que c'était un habitant du village dans lequel vous étiez esclave, à Hama ?
C'était un Syrien, un arabe. Il habitait Raqqa. Il a aidé de nombreuses femmes. Et des jeunes filles yézidis en partenariat avec le bureau qu'il payait. Il était en contact avec mon frère et avec 3 autres passeurs, dont Idriss. Ils travaillaient tous pour le bureau.
Et vous étiez avec vos 3 enfants, vous avez passé la frontière avec vos 3 enfants.
Là-bas, les petits parlaient arabe. Ils ne connaissaient rien de notre vie d'ici. n'ont pas vécu ici. Sedat et Noujan ont connu uniquement les djihadistes. Ils parlaient leur langue. 6 mois après notre retour, ils avaient encore la mentalité djihadiste. Ils ne savaient pas parler kurde, ils parlaient uniquement arabe. Grâce au travail des ONG, ils ont appris à parler notre langue, le kurde.
Est-ce que ça vous a aidé à vous reconstruire aujourd'hui ?
Aujourd'hui, ça va mieux. Moi, j'ai 4 enfants. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu. Même si je commence une nouvelle vie, il y aura toujours ce malheur dans mon cœur. Je veux tout reconstruire. Pas pour moi, mais pour mes enfants. Ma vie n'a pas été belle. J'espère que celle de mes enfants le sera.
Interception sur France Inter.
Je m'appelle Dunia Fares. Je suis psychologue. Je prends soin des femmes, des enfants et des adolescents otages de Daesh ou non d'ailleurs.
Noura a été libérée en juin 2017. Quand elle est arrivée, comment vous vous êtes occupée d'elle ?
Nous avons commencé à travailler sur le cas de Noura en lui permettant de participer à des stages, des séances de psychologie individuelle selon des principes académiques. On a fait participer ses enfants aussi. Il y a beaucoup d'activités manuelles, sportives, yoga, séances individuelles, collectives. Noura et ses enfants ont bien progressé ainsi.
Concernant les enfants, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets pour qu'on voit l'évolution des enfants entre quand ils ont été libérés en juin 2017 et aujourd'hui ?
Sivan et Soufiane ont participé à nos activités, contrairement à Noujin et Sedat, qui sont beaucoup trop petits pour ça. Sivan, par exemple, ne parlait pas du tout. On lui posait n'importe quelle question, elle répondait « je ne sais pas ». Soufiane, lui, était hyperactif. C'était impossible pour lui de s'asseoir ne serait-ce que 2 minutes sur une chaise. Que ce soit durant les activités, durant le sport, ou encore à l'extérieur, n'importe où en fait. Il était hyperactif. Les autres enfants faisaient, eux, des cauchemars, pipi au lit. Ils cachaient parfois des armes sous leurs oreillers. Soufiane, lui, aimait beaucoup les couteaux et toutes les armes. Il frappait ses copains, il était très violent avec eux. En fait, Soufiane appliquait ici ce qu'il avait appris dans les camps des djihadistes. Sivan, elle, n'avait pas d'amis. Elle était complètement isolée dans le camp, que ce soit avec les anciens otages de Daesh, comme elle, ou avec les autres enfants. Elle n'avait aucun ami. On questionnait sa maman sur ses comportements à la maison. Elle disait même qu'elle frappait ses sœurs et ses frères. Elle était tout le temps énervée. Elle ne mangeait pas et elle pleurait. Avant, Soufiane utilisait toujours des couleurs noires ou bleu foncé dans ses dessins. Il dessinait souvent des bateaux et la mer était toujours noire ou bleu foncé. Grâce à la thérapie, aujourd'hui, il utilise le vert, le bleu ciel et même du orange. Ça se voit comme ça qu'il va mieux. Et il n'est plus hyperactif. Son petit frère, lui, il est toujours et il a encore besoin d'être soigné. Sivan et Sidat ont vécu des choses terribles. À 8 ans, elle a été violée. Sidat n'avait même pas 5 ans quand il a été obligé de regarder avec sa maman 3 personnes se faire décapiter. Encore aujourd'hui, si un homme parle à Sidat, l'enfant ne le regarde pas droit dans les yeux.
Noura nous dit qu'elle ne travaille pas. Quelle perspective d'avenir Noura peut avoir avec ses enfants ? Elle a perdu son mari. Quelle perspective d'avenir peut-elle avoir aujourd'hui ?
Noura nous dit « Je n'ai pas d'avenir ici, mais le plus important, c'est que mes enfants et moi, on se sente bien. Elle ne peut pas travailler et personne ne peut matériellement l'aider. Durant la fête des Yézidis, Noura a pleuré et elle m'a dit « Ce n'est pas une vie. Je ne peux même pas acheter de vêtements pour mes enfants pour la fête. »
Et là, nous allons rentrer à l'intérieur des locaux d'Elis Care, l'association humanitaire française implantée ici dans le camp de Radia et qui vient en aide aux Yézidis et à leurs enfants. Et Noura nous confiait préférer passer ses journées dans ces locaux où tout est organisé pour les familles. On voit des crayons de couleur, de la peinture, des instruments de musique. Noura préfère passer ces journées-là plutôt que sous la tente qu'elle partage avec une autre famille.
Sophia, qu'est-ce que tu es en train de dessiner ?
Une maison. C'est ma maison. Je mets des couleurs partout.
Et donc on voit pâte à modeler, bracelets, peinture. Musique aussi, atelier musique, exactement. Oui, des instruments de musique. Qui joue de la musique ici ? Est-ce que tu nous jouerais un petit morceau ? J'aimerais bien entendre un petit morceau de toi. Il paraît, Soufiane, que tu joues bien de la musique.
Oui.
Tu joues quoi, montre-moi.
De la musique. Tu chantes à la maison? Allez, chante. Non, je ne sais pas. Ouais, si tu sais. Allez, sois pas timide. Allez.
Nous retrouvons Idriss chez lui à Dohuk. C'est ici qu'il s'est installé depuis qu'il a fui le Sinjar. Sa femme et trois de ses filles qu'il a libérées vivent aujourd'hui en Allemagne. Lui poursuit sans relâche sa mission avec un secret espoir. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo ?
Cette vidéo, c'est quand une maman et ses deux enfants traversaient le désert avec le passeur. C'était les messages qu'on s'envoyait. Je demandais, elles sont arrivées où ? Alors pour me donner les preuves, et pour ne pas que je le soupçonne, le passeur m'a envoyé la vidéo pour me montrer qu'elles étaient dans le désert. Et voilà, regarde, elles marchent dans le désert. Et là, on les voit sous une tente.
Et le message vocal qu'on a entendu, c'était quoi ?
Chaque fois que la femme arrivait dans une zone avec un nouveau passeur, elle m'a envoyé un message pour me prévenir. Là, elle me dit « Je suis là, je suis à la frontière ».
M'a dit ma sœur, où êtes-vous ?
Ils ont pris le passeur pour l'interroger.
Mais où êtes-vous ?
À la frontière.
Vous êtes au point de contrôle des Kurdes ?
Oui.
Ok, ma sœur. Je passerai te prendre dans 2 heures.
Mais du coup, vous risquez votre vie pour sauver ces esclaves. Qu'est-ce qui vous motive ?
J'étais obligé. Ma famille était entre leurs mains.
Vous pourriez nous montrer les personnes que vous avez libérées ? Vous les avez en photo sur votre portable ? Vous pourriez nous dire ?
Là, par exemple, regardez cette photo. Elles étaient comme ça avant Daesh. Je les ai libérées. Elles sont comme ça. Regardez la différence. Avant, elles portaient un voile intégral. Plus maintenant. Tu vois, j'ai libéré cette femme. Ils m'ont envoyé cette photo pour me dire qu'elle était bien arrivée chez nous. Elle a été sauvée de Hajin, au sud de Deir ez-Zor. Sa libération a coûté 3 500 $.
Ces photos que vous nous montrez, c'est des photos qui ont été prises par les esclaves elles-mêmes sur place ?
Non, ce sont les passeurs qui m'envoient les photos pour me dire où ils sont arrivés. Et là, c'est ma fille. Je n'ai pas encore trouvé de solution pour la sauver.
Elle a quel âge, votre fille ?
11 ans.
Et elle s'appelle comment ?
Aman.
Et qui vous a envoyé cette photo ?
un djihadiste.
Abou Bara El Jerzaoui.
Et pourquoi il voulait envoyer cette photo? Il sait qui vous êtes?
Oui, il le sait. C'est pour ça qu'il complique les choses. À chaque fois qu'on essaie de faire libérer ma fille, il répond non, j'ai un trésor, on ne va pas le laisser filer.
Il vous fait chanter en fait.
Il nous dérange beaucoup, je vous le jure. Comparé à tout ce que je fais depuis le début, ça c'est le pire du pire. Parce que... elle est là-bas. Elle-même. Toujours elle.
Aujourd'hui, le califat de l'organisation État islamique n'existe plus. Les forces arabo-kurdes sont en passe de venir à bout des dernières poches de résistance dans la région de Deir ez-Zor, en Syrie. Mais 3000 yézidis sont toujours portés disparus. Les sauveurs de yézidis, c'était un reportage d'Alice Serrano, prise de son Eric Audra, réalisation Violaine Ballet, assistée de Stéphane Combe, mixage Vincent Godard. À la semaine prochaine. Lazanji azadet kan.